des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Ben, décidément, ça bouge dans le monde du crime organisé. On apprend qu'une opération policière se déroule présentement contre les membres des Hells Angels, contre les membres des Red Devils aussi, tout ça en lien avec le trafic de stupéfiants dans la région de Québec. Gros déploiement policier. Au moins 60-70 policiers de déployés. On a arrêté plusieurs individus, une dizaine selon le plus récent bilan. Et parmi les gens qui ont été arrêtés, là, selon les informations de nos collègues, notamment Félix Séguin, on parle de Marco Roberge, de Christian Boucher, donc des individus influents du crime organisé. Et parallèlement à tout ça, grosse frappe aussi de la GRC à Montréal, 24 heures plus tôt dans le monde criminel, après une enquête étendue impliquant plusieurs personnes, 400 policiers, et dans ce cas-ci, le bilan fait état de 13 personnes arrêtées, et c'est principalement le clan Oliverio Lopez qui était visé, un clan important de la mafia italienne montréalaise. Donc, pour comprendre ce qui se passe, Paul Laurier, ex-policier à la Sûreté du Québec et président de la firme de sécurité Vigitech. Salut, Paul.
Bonjour, Alexandre.
Bon, alors, prenons ça morceau par morceau. Commençons à ce qui se passe dans la région de Québec. Est-ce que c'est en lien avec cette guerre des stupéfiants qui fait rage depuis plusieurs mois déjà? Quelle est ta lecture de ce qui se passe?
Ben, les stupéfiants, c'est comme un peu aller à la pêche ou au crêpe soleil ou à la perche chaude. Il faut toujours en avoir. C'est toujours il va toujours avoir des stupéfiants sur le marché. Il va toujours avoir des vendeurs. Il va toujours avoir des acheteurs. Le marché s'est transformé. C'est plus ce que c'était. La hiérarchie est plus pareille. Donc, les policiers, corps policiers, ont des informations, enquêtent des informations à tous les jours. Et ben hier, c'était comme une saison de récolte aussi. Quand on est prêt à faire face à la justice dans le sens où, maintenant, avec Jordan, qui oblige les policiers à du moment où on a arrêté quelqu'un, à le faire comparaître puis à soumettre la preuve au procureur devant la cour, ben c'est le genre d'opération qu'on voit majeur en groupe, puis là, ben ça demande énormément de logistique. Plus celle d'hier, je dois avouer qu'elle était de la part de la GRC, là, qui n'a pas cette c'est pas dans leurs habitudes quotidiennes de faire des frappes de cette importance-là. Ils vont être assez c'est assez impressionnant. Sûreté du Québec, ben, c'est des équipes qui sont vraiment, ce matin, c'est des équipes qui sont habituées, moteurs sont habitués, on les connaît, on connaît les joueurs, on a des sources et on a des équipes dédiées à ça, puis on est capable de facilement servir de bord et organiser ce type de perquisition-là. 70 personnes, c'est nombreux, 400, c'est beaucoup en logistique. Et puis là, ben, il faut coordonner ça, il faut ouvrir des portes, s'assurer que l'autre bord de la porte, on n'est pas en danger, c'est qu'on va aller chercher les équipes tactiques d'intervention. Avant ça, on a eu des équipes d'enquête, on a eu des renseignements. Puis là, hier, quand on fait des arrestations, ben il faut tout remettre la preuve prête à faire feu. Puis après ça, ben il faut aussi que les preuves qui sont recueillies soient scellées. Donc, ça demande énormément de logistique.
Dans le cas de l'opération à Montréal, menée par la GRC, Paul, c'est le clan Oliverio Lopez qui était visé. Un clan, nous dit-on, important de la mafia italienne montréalaise. Pourquoi les avoir ciblés, eux? Qui sont-ils? Il y a des grandes familles mafieuses qu'on connaît, qui sont souvent dans l'actualité, mais qu'est-ce qu'on sait sur cette famille-là et sur ses frères-là?
Ben, dans le fond, ce que ça va nous dire, c'est que si on n'entend pas parler, c'est qu'ils sont efficaces. Ils font leur travail comme les gens du crime organisé, particulièrement la mafia italienne, aiment le faire. C'est des gens que vous n'entendrez pas parler, qui vont passer les commandes, qui vont être sous les radars. Et quand on vient puis on les frappe comme ça, ça veut dire qu'il y a une information qui a coulé. On a été capable de s'approcher avec eux, mais c'est pas des gens qui vont travailler avec fracas. C'est pas des gens qui vont et c'est ce que le crime organisé italien préfère. On veut pas de bruit, on veut pas avoir la police sur le dos, on veut pas que nos voisins sachent qui on est. On veut faire nos affaires librement. Mais moi, je dois avouer honnêtement, je les connaissais pas. Donc c'est une nouvelle et avec la mouvance des changements de clan, Sicilien, Nagretta, on ne sait pas vraiment qui a le contrôle. Puis avec le, maintenant, je vous dirais, l'internationalisation du crime organisé, c'est plus ce que c'était. C'est plus une structure organisée. On parle de crime parfois désorganisé. Des gangs de rue qui travaillaient pour les motards, motards travaillaient pour les Italiens, tout le monde travaillait ensemble. Maintenant, c'est plus ça. Quand les criminels ont l'opportunité de contrôler un territoire, ils vont le faire. On le voit avec les incendies criminels. Avant, ça, c'était des choses, des raquettes de protection, c'était des trucs qui étaient dédiés spécifiquement à certains clans, puis l'exécution de ces actes-là. Maintenant, c'est plus ça. C'est vraiment des gens qui vont le faire par eux-mêmes, c'est des ça. Petits vendeurs. Ils vont le faire par eux-mêmes, donc ça devient des entreprises, des électrons libres, ce qui est dangereux.
On s'aperçoit.
On le voit, là. Oui.
Ah oui, on s'aperçoit, puis tu as raison de le souligner, que les allégeances sont plus fragiles que jamais. Dans le cas des frères Lopez, on parle de Franco, Giuseppe et Pasquale. Giuseppe, lui, a été assassiné en République dominicaine en septembre, mais ses autres frères sont considérés, selon nos collègues du journal, comme des narcotrafiquants impliqués dans l'approvisionnement de coke pour toutes sortes d'organisations locales. Maintenant, quand on cible 16 résidences, 4 commerces, il y a 2 bars, entre autres, 2 véhicules qui ont été perquisitionnés. Qu'est-ce qu'on cherche?
Ben, premièrement, c'est que depuis les affidavits, il y a sûrement eu des coûts électroniques, il y a sûrement eu des moyens d'enquête importants. Ben, ce qu'on va chercher, c'est la preuve. On va aller chercher des cellulaires, on va aller chercher de la drogue, on va aller chercher des armes, on va aller chercher des factures, on va aller chercher des objets, des choses qui ont été vues sur la filature. On va voir, des fois, ces gens-là ont 2-3 cellulaires, on va les voir. On va voir qu'il y a il peut avoir aussi des comptes. On va saisir généralement les actifs, comptes de banque. On va aller geler ça. Les autos, on va les geler aussi. Puis là, ça va devenir des produits de la criminalité qu'on va pouvoir revendre et aller chercher le fruit. Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Puis on va essayer d'aller voir aussi la preuve, exemple d'acte hypothécaire. On pourrait, le procureur pourrait mettre des saisies légales sur certains biens importants quand on est capable de prouver au final, il y a du blanchiment d'argent et il y a de l'évasion fiscale aussi. Là. Il y a plusieurs facettes. Quand on cherche, c'est plusieurs annexes. Et une des choses qui ont servi au crime, ça peut être des outils qui ont servi au crime, mais ça peut être aussi des preuves que le crime a été commis. Par exemple, des actifs. L'argent a été détourné ou envoyé dans des compagnies parce que ces gens-là, évidemment, il faut toujours se rappeler que des stupéfiants. Moi, je disais toujours, prenez une poche de hockey de gardien de but, remplissez ça de 20 $ et à tous les semaines, vous devez rentrer ça dans un système bancaire. Après, de ce moment-là, ben, l'imagination de ces gens-là, ça va être OK, on va faire des compagnies, des fausses compagnies, on va prendre des prête-noms et ces gens-là vont faire des facturations, vont faire des entreprises
de front. Blanchir cet argent-là.
Pour la rentrer dans le système okay. bancaire. Puis à partir du système bancaire, on va monter à 2, 3, 4 niveaux qui fait que la police ou l'État n'est plus capable de savoir qui a fait quoi et si l'entreprise est légitime ou pas. Et généralement, ces entreprises-là, c'est pas les gens du crime organisé qui vont aller chercher. Là. C'est des qui vont le faire. C'est des gens qu'on va prendre des connaissances, des amitiés ou des gens qu'on va avoir pris par la gorge. Exemple, une maîtresse, on va les inciter fortement à collaborer. On voit ça souvent dans le milieu de la construction. Et puis là, c'est l'empire qui va se bâtir. On rentre la poche de hockey, le gardien de but rempli de 20 $, on la rentre à toutes les semaines dans le système financier.
L'image est très forte.
Qu'on s'aperçoit. Oui, c'est vraiment ça me rappelle printemps 2001, là, quand on voyait les montants d'argent qu'on saisissait, puis on le voit, là, les moteurs enterrés dans des seaux de plastique. On a retrouvé ça à Sherbrooke. C'est vraiment l'image. Eux, là, les gens ne payent pas. Puis malgré que maintenant, c'est aussi faux, parce que maintenant, ces compagnies-là, quand on a des compagnies front, on est capable de faire des débits. Là. On est capable de faire des virements directement. Mais ça prend des compagnies qui sont en ligne.
Et c'est là que tu vois qu'on n'a pas toute la même vie, parce que moi, dans ma poche de hockey, il y a réellement mon stock de hockey. Paul Laurier, ex-policier à la Sûreté du Québec, président de la firme de sécurité Vigitech. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.